Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous choisir sur la 93.5. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver dans cette émission Club de la Presse. Après l'accident tragique à Gouezongo qui a fait 8 morts et 3 blessés graves, le gouvernement veut situer les responsabilités. Selon des sources bien concordantes, les responsables des entreprises ayant réalisé les travaux de construction de l'ouvrage sont convoqués par les autorités judiciaires et le responsable de l'entreprise propriétaire du véhicule à l'origine de la tragédie est détenu en garde à vue. Selon le procureur de la République, Talaka Mawama, les enquêtes procèdent actuellement à l'audition de toutes les personnes d'intérêt à des expertises techniques pour situer les responsabilités ainsi qu'à la collecte de témoignages et preuves nécessaires à la suite à l'heure de l'instruction, précise le journal La Lanterne. Le sujet sera débattu dans cette émission Club de la Presse de ce jeudi 19 décembre 2024. Nous aborderons d'autres sujets liés à l'actualité tels que traités et analysés par les journaux parus ce jeudi. Merci de nous choisir et bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Victor Beitobiga est à la mise en onde. Jérôme Dakouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nekho, Radio La Paix à Takwame, Central FM, nous sommes à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Également, vous pouvez nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays et du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au jeudi et là, vous comprenez que Ambroise Konzo est là. Ambroise, bonjour.
Oui, Pascal, bonjour. Bonjour les auditrices et auditeurs de Radio Canal FM, ceux qui nous suivent dans l'administration togolaise de Lomé à Saint-Cassé, ceux qui également sont dans la diaspora, qui nous suivent à travers TikTok et Jérôme Dakouta. Il y a un fait qui m'a touché tout à l'heure. J'ai gardé mon véhicule, j'ai voulu acheter du pastèque. J'aime le manger comme les singes le mangent. Je n'aime pas qu'on le morcelle. Et tout de suite, un Zémillan s'est arrêté. Bon, il me connaît, comme beaucoup nous connaissent. Il a dit de ne pas payer, même si c'est 100 francs, lui va payer ça. Bon, j'ai été sidéré. Qui dit non, vous faites un travail pour ce pays, c'est le minimum qu'on puisse vous faire. Et ça, la dame me regarde, en ne sachant qui je suis, et elle lui dit que c'est un journaliste. J'ai été touché. C'est vrai que ce n'est pas la première fois, mais ça là particulièrement pour cet enfant. Et j'ai voulu ramener la marchandise sur la tête de la dame. Il a dit non, il va le faire. Et il a fait, je ne le connais pas. Il a dit que lui m'entend, mais que je ne le connais pas. Juste pour dire à ceux qui nous suivent que le travail qu'abat le journaliste dans ce pays, les gens, nous ne demandons rien. Ne serait-ce que ce soutien symbolique, moi, ça m'a vraiment touché. On n'a pas besoin de 2 millions. On n'a pas besoin de 200, 300, 500, 1 million, 10 millions de francs pour nous soutenir. Même la caution morale, même... nous travaillons pour nous tous, même pour ceux qui sont au pouvoir. Le travail que nous faisons, c'est dans leur avantage. Si nous voulons le changement des choses, c'est ça. Et donc, en cette période de fête, je profite pour dire à celui qui m'entend tout de suite, qu'il soit ministre, qu'il soit DG, qu'il soit secrétaire général, qu'il soit planton, qu'il soit commerçant, qu'il soit opérateur économique, de faire un geste à l'endroit de quelqu'un qui en a besoin en ce moment-là, pour que les enfants aussi s'en jaillent, pour que les enfants aussi soient dans la joie. Ça y est. Le geste symbolique m'amène à dire ça pour que nous puissions être solidaires entre nous en période de fête pour que la joie gagne toutes les familles.
D'accord. Merci beaucoup, Ambroise. Et nous saluons justement cet auditeur qui a posé ce geste-là, ce soutien également à votre endroit. Et je pense que nous, en tant que journalistes, on a besoin vraiment alors de ces soutiens. Tu l'as si bien dit. Ne serait-ce que alors du soutien moral, ça nous fera aussi plaisir. Alors, Michel, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour Ambroise et Basile.
Michel, c'est vrai que nous sommes dans une société où il est difficile alors d'apprécier son prochain. Quand t'en fais bien, et c'est toujours difficile pour le Togolais d'apprécier son prochain. Mais quand on écoute ces genres de témoignages tels que Ambrose vient de le donner, c'est-à-dire il voulait juste acheter quelque chose et on lui a dit, mais non, écoutez, ne payez pas parce que moi, je vous écoute, je sais combien de fois vous faites quelque chose pour ce pays. Et donc, moi, je paie à votre place. Je pense quand même que c'est quelque chose à apprécier, à saluer.
Je sais pas, je ne vous suivais pas avant de rentrer au studio. Je sais pas, c'est une dame ou bien un monsieur.
Non, c'est la dame qui vend.
Qu'il soit chaleureusement remercié, ce monsieur. C'est ça. Vous savez, nous vivons des situations comme ça de temps en temps où des gens, tu arrives quelque part, un ami te salue. Elle parle nos voix et dit c'est elle, vraiment je suis très ravi de vous rencontrer aujourd'hui, je vous écoute. Ça nous fait chaud au cœur, hein, même si on ne nous donne rien. Nous on n'a même pas, moi je le disais, la solidarité est en train de fuir ce pays. Tu disais que quelqu'un a, mais depuis quelques années, la solidarité fuit le Togo. Les gens, ceux qui en ont, mais ils font extrêmement attention. Donc on n'a pas besoin de grand chose, mais seulement cette reconnaissance là que vous faites quelque chose, une œuvre de salubrité publique, je pense que ça nous va tout droit au cœur. Et ils sont nombreux, hein, qui nous suivent, qui sont intéressés par ce que nous disons. Il y a d'autres qui sont contre, même ainsi est faite la vie, hein. Donc moi, on ne tient pas compte de ça.
Et puisque la critique permet aussi d'avancer.
Oui, ce que nous disons, c'est comme une bouteille jetée à la mer. Celui qui veut, il prend, celui qui ne veut pas, il laisse. Il n'y a pas de problème. La vie continue. Donc, moi, je suis très ravi qu'une telle personne ait vraiment, en tout cas, exprimé cette aimabilité envers Ambrose. On le fait autant à nous aussi, à beaucoup de confrères. Et cela nous fait chaud au cœur, même si on n'a rien. Voilà.
D'accord. Sinon, les compliments, c'est tous les jours.
C'est
tous les jours. Sauf que ça marque. Il y a plus grand. D'ailleurs, les gens même sont prêts à vous donner l'imprimante depuis l'Europe. Les gens vous donnent des sacs de riz. On était ici quand quelqu'un a envoyé à manger ici.
Ouais.
Donc, c'est tous les jours, c'est plein. Ouais. Mais ça là, ça y est pour 100 francs. Ça y est, j'ai trouvé ça grand quoi.
Justement, c'est grand. Ouais, c'est le geste.
C'est grand.
Il faut voir au-delà même d'ailleurs de ce geste, cette solidarité, cette reconnaissance. Hein,
c'est de la diaspora. Mais même à l'intérieur ici, ils sont souvent touchés par nos propos, même si ça blesse certains.
Oui.
Ils comprennent que c'est notre manière de lutter pour qu'il y ait une amélioration des conditions de vie et un changement.
Tout à fait. À côté de ceux qui nous haïssent, par rapport à nos prises d'opposition, nos approches sur un tel ou tel sujet, quand on vit des situations comme ça, on se dit, alors, mais la vie est belle. Hein?
Ah oui. Ça veut dire que nous sommes écoutés.
Ouais,
nous sommes
suivis. Ouais.
On a suivi. Surtout nos amis qui sont à Dapan, à Kara, à Nyamtougou, à Sokoré et à Tapame, moi je leur dis bonjour parce que il y a des retours qu'on a souvent qui nous vont aussi droit.
D'accord. Oui, d'accord. Je profite pour saluer un ami qui est de la préfecture de Dofolgou, mais qui vit aux États-Unis. Mais à chaque fois que nous animons l'émission les jeudis, chaque fois que je sors, il m'écrit, il demande de saluer tous ceux que lui adore l'équipe des jeudis. Oui, qu'il adore l'équipe de
Jeudi. C'est tout voilà. Monde, mais on ne va pas en parler pour
qu'il... Non, j'ai dit que c'était la vie. Non,
c'est clair. Voilà,
c'est clair. C'est clair. Il y a des gens qui adorent aussi les équipes lors des autres jours. Et donc,
je parle de ce qu'il a dit.
Oui, oui. Non, voilà. Il n'est pas le seul.
Non, voilà.
D'accord. Certains le campent dans la radio quand même, que le jeudi, à 11h.
Ok. Basile Mignaké, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à nos fidèles auditeurs, auditrices.
Oui, c'est vrai que
la presse.
Oui, c'est vrai que beaucoup qui écoutent alors votre voix actuellement diront que, mais écoutez, Basile, c'est souvent les mercredis, mais comment se fait-il que ce jeudi on retrouve Basile Mignaké alors au club de la presse? C'est, je pense qu'il y a quelque chose alors qui justifie cela.
Tout à fait, comme vous le dites si bien, Pascal. Je profite aussi de l'occasion pour mettre un mot à ce que Ambrose et puis Michel viennent de raconter, pour vous dire que Vous savez, nous sommes adulés. Hein. Nous sommes adulés, adoubés par nos populations qui nous écoutent. Et que les retours, comme ils ont si bien le dit, les retours, c'est chaque jour que Dieu fait. Et vous voyez. Le Togolais, c'est quelqu'un de généreux. Mais quoique la situation aujourd'hui ne s'y prête pas, le Togolais, il est généreux. Je vous raconte une petite anecdote. Au moment de la Covid, nous, en santé éducation, il y a des gens qui sont venus nous donner des fonds. On ne leur a pas demandé. Ils disent, ah, comment est-ce que vous vivez? Comment est-ce que vous travaillez? Comme vous ne publiez pas. Comment est-ce que tout ça là? Donc, il y a des gens qui se sont portés volontiers pour venir nous aider, hein, nous accompagner, nous soutenir. Est-ce que vous voyez? Donc, ces anecdotes que vous venez de rencontrer, c'est un peu ça. Hein. Les gens nous apprécient parce qu'on fait un travail extraordinaire qui ne donne pas, qui ne fait pas enrichir comme un homme d'affaires, est-ce que vous voyez? Donc, toutes ces actions nous encouragent et nous soutiennent à exceller. Et ça devient d'ailleurs une pression pour nous de mieux faire. Mmh. Donc, je reviens sur l'objet de ma présence. Est-ce que je suis convoqué ou bien je suis invité?
Non, mais vous êtes invité. Vous êtes invité plutôt. On sait que ça va, par rapport même d'ailleurs à ce que nous sommes en train de dire, hein, concernant le fait que il y a cette solidarité que nous avons perdue dans notre société. Mais toujours est-il qu'il y a des gens qui gardent cette solidarité et qui l'expriment quand le besoin se fait sentir. Et il y a un auditeur qui nous écoute et dit bonjour Pascal, bonjour plateau. Effectivement, ce que vous nous faites au peuple alors togolais tous les jours est énorme. Et que Dieu vous garde et vous protège. C'est Maglib depuis Vilsam. Vilsam, c'est en Belgique, bien sûr. Et donc, ça dit beaucoup, hein. Ça tout dit énorme, a fait beaucoup de choses. Et donc, oui, Basile, nous revenons à cette question alors de Mabès. Mabès, c'est le marché du bien-être et de la santé, voilà, au Togo. Oui. Et nous sommes à la 6e édition alors de ce marché. Et vous avez démarré depuis hier. Oui. Aujourd'hui, c'est la conférence qui aura lieu, bien sûr, au collège protestant de Lomé. Alors, concrètement, d'abord, on prend la journée d'hier. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Comment ça s'est passé?
Hier, vous savez, pour ce Mabès, nous avons innové, tout comme l'année passée. Donc, hier, on était dans le marché d'Assiéyé, à Didogomé, pour échanger avec nos mères, nos sœurs, qui sont des revendeuses et puis revendeurs, parce que la grande majorité, ce sont les revendeuses. Et nous avons fait le tour du marché. On a marché avec eux, et avec elles plutôt. Et après, on s'est apprêté à certains jeux, jeux de boules, pour remuer nos muscles, etc. Et après, on est passé à une étape qui est de échanger. Avec les experts étaient là hier dans ce marché. Il y a la nutritionniste, il y a le médecin qui est là, qui ont échangé avec ces dames-là. Et Pascal, je vous dis que la situation est alarmante. Nos mamans étaient venues avec toutes sortes de pathologies. Des courbatures ici, des insomnies, et les maux de hanche. Et on n'arrive pas, on a des crampes, de toutes sortes de maladies.
Et des fois aussi, est-ce que ce n'est pas le coup de l'âge?
Oui, non, pas le coup de l'âge. Celles qui sont là, la moyenne d'âge, c'est entre 30 et 35 ans. Hein. On n'a pas eu les mamans de 60, 70, 80. Non, on n'a pas eu ça. Ce sont des jeunes. Un fait nous a marqué parce que ça a été rencontré par elle-même. Disent que lorsqu'elles sont assises, c'est difficilement qu'elles quittent leurs marchandises pour répondre à certains besoins vitaux. C'est-à-dire qu'aller se soulager, aller uriner, ça revient, ça, c'est comme si elles perdaient la clientèle. Donc elles sont obligées de rester là, dans cette position. De 7h jusqu'à 18h dans la soirée. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est difficile, hein, pour un organisme de fonctionner correctement. Et donc, là-bas aussi, on ne mange pas bien. Toute chose qui passe, ça donne envie. On prend ici, on mange, on prend ici. Et le soir, on fait la résistance de tout ça là. Parce qu'on n'a pas bien mangé le matin, le midi. Et dans la soirée, à 18h, 19h, 20h, on fait quoi? On fait l'addition de tout ce qu'on n'a pas mangé. On mange, on s'en va pour dormir. Donc, elles ont eu à poser des questions pour savoir comment faire s'en sortir. Parce qu'il y a des femmes qui traînent le diabète, il y a des femmes qui traînent l'hypertension. Comment faire pour s'en sortir? Que faire maintenant? Donc, c'est là ces médecins ont échangé avec ces femmes pour leur dire quelle est la bonne manière pour une femme qui vient au marché de s'alimenter. Son petit déjeuner sera constitué de quoi? Le midi et le soir. Si le soir, on n'a pas pu manger toute la journée, quel est le menu de la soirée? Comment est-ce qu'on va combattre? Donc, c'était pratique, quoi. C'est pas venir lire des cours à l'université, c'était pas ça. Mais c'est de faire face à l'évidence et puis de proposer quelque chose à ces dames-là. Donc, pour vous dire que hier, on s'est séparés difficilement. Nous l'avons dit qu'il y a un temps pour commencer aussi, il y aura un temps pour se séparer. Donc, on est parti vraiment discuter avec ces femmes-là parce que l'enquête STEPS que nous avons pu échanger montre à suffisant que nous avons des problèmes. Et surtout, nos mamans, nos femmes, raison pour laquelle la prise en charge dans les formations sanitaires est occupée majoritairement par nos femmes. Et donc, la solution, c'est de bouger. C'est ça pour cette année, ma baisse, c'est de bouger, c'est de marcher pour notre santé. Aujourd'hui, on peut le dire par le passé que le sport est bien pour la santé. On l'a dit d'une manière empirique. Mais aujourd'hui, toutes les études montrent, je dis toutes les études, même ceux qui sont dans le corporatisme sont d'avis que aujourd'hui, le fait de bouger apporte est majoritairement une solution à nos maux qui minent et par ricochet sur quoi les maladies non transmissibles. Mmh. Aujourd'hui, c'est ça qui est en pole position.
Et puisque l'enquête STEP l'a démontré récemment, vous avez partagé cela avec les journalistes et ça se comprend que aujourd'hui les maladies non transmissibles envahissent en quelque sorte nos populations et il faut vraiment
pas prendre des mesures. Ça déjà envahi.
Oh, mais justement,
c'est catastrophique déjà.
Oui, mais puisque ça continue, bien sûr. Et donc, il faut prendre des dispositions.
Oui, raison pour laquelle nous sommes dans cette éducation de masse. Aujourd'hui, ces femmes-là que nous sommes partis rencontrer, on ne parle pas d'acheter les journaux pour lire ou bien d'écouter la radio. Parce qu'elles sont là, assises permanemment avec leur clientèle. Donc, il faut aller sur le terrain, leur parler que la situation dans laquelle elles se trouvent avec toutes sortes de pathologies, ça n'avantage pas. Et ça risque de saper notre économie, parce que c'est le marché. C'est là que nous allons pour nous approvisionner.
Nous approvisionner
pour faire du ça là. Et c'est là qui nous servent. C'est pas seul le marché d'acier. De Lomé à Gapan, à Saint-Cassé, c'est la même situation. Et donc, il faut aller au charbon. Mmh. Donc, nous sommes d'avis qu'il y a des médias. Nous allons appeler aussi d'autres médias, que ce soit la presse écrite en ligne, que ce soit les radios, la télé. Nous devons être dans une dynamique à aller vers nos populations, pour nous-mêmes. Parce que ça fait 5 ans aujourd'hui, si je vous dis le nombre de journalistes qu'on a perdu précocement, ça va vous choquer un peu. Nous, les journalistes même, les médecins même, personne n'est épargné. Personne. Même jusqu'au chef d'État des pays, aux ministres, personne. Et nous savons que quelqu'un qui meurt moins de 70 ans, c'est une mort prématurée. D'accord. Et que nous n'allons pas s'inscrire dedans. Il faut sortir.
Donc aujourd'hui,
c'est pour ça que nous sommes là et c'est qu'il y a cette conférence au collège protestant. nous profitons de l'occasion pour remercier Monsieur le ministre qui nous donne aussi son coup de main en traitant rapidement les dossiers et en les remettant à qui de droit. Nous remercions le clergé même de l'EPT qui a accepté mettre la salle et puis la sono, tout le dispositif à notre disposition pour qu'aujourd'hui les experts viennent nous parler de quoi. Ce n'est pas, je le dis toujours, ce n'est pas de venir réciter les cours, mais c'est de dire aux gens aujourd'hui que l'hypertension, le diabète, le cancer peut être guéri. Et ça se guérit. Si vous suivez un médecin, le docteur Michel Simès, qui est un urgentiste, a retrouvé sa santé parce que il s'est pris rapidement. Il s'est pris. Il avait un cancer de rein et il s'est pris. Il en est sorti. Donc aujourd'hui, quoi qu'on dise, ces maladies, ces pathologies sont réversibles. Et que nous allons, pour la deuxième communication, c'est que notre alimentation nous guérit aussi. Ce que nous mangeons.
Et puisqu'il est dit voilà. Que notre alimentation doit être notre médicament.
Tout à fait, tout à fait. Donc, le public sera là. Raison pour laquelle je demande au DG des sociétés, au ministre de libérer à temps le personnel pour venir échanger, écouter les experts. Parce que il y a AMU. Nous disons, on dit il y a AMU. L'assurance maladie. Si on ne met pas la prévention en tête, la AMU sera, débordé, comme les éléphants blancs, comme on le dit, ça ne va pas d'ordonner, parce que nous serons nombreux, à être pris en charge, et c'est difficile, assurer. Donc, aujourd'hui, on reprend encore Pascal, oui. Avec Ambroise ici, Michel. On va unir nos voix pour appeler la population.
D'accord.
Le personnel des services, que ça soit étatique, que ça soit privé, que ça soit confessionnel, a fait le déplacement au collège protestant à 18h. Ça commence à
18h.
Et ça part faire à 21h.
Okay.
Donc l'appel est lancé.
D'accord.
Nous sommes dans une église protestantes, vous savez que les protestants, leur force, ce sont les chants. Donc, c'est comme on fait la veillée pour enterrer les maladies non transmissibles. Est-ce que vous voyez? Donc, l'appel est lancé à tout le monde de venir de faire le déplacement.
D'accord.
Pour échanger avec les experts.
Merci beaucoup, Basile Mignaki, d'être passé. Donc, le rendez-vous, c'est déjà à partir de ce soir, à partir de 18h, au collège protestant de Lomé. L'appel est lancé à tous pour participer à cette rencontre. Cette rencontre où on aura des communications et aussi, alors, on poserait des questions, des questions liées à la santé. C'est très important. Merci, Basile, d'être passé dans cette émission. Nous revenons en plateau, chers confrères. Ambroise, on démarre cette émission avec ce sujet dont nous avons toujours débattu au Club de la Presse. Et c'est comme si, finalement, nos débats ici au Club de la Presse ont trouvé écho favorable au niveau du gouvernement. Parce que le gouvernement, je veux bien parler alors de ce sujet, alors des enfants de rue ou de la mendicité. Hein, de la mendicité, alors dans la rue, où on voit des enfants qui demandent, et des fois même d'ailleurs qui harcèlent, qui harcèlent des passagers ou des usagers de la route. Il y a le journal du Togo qui écrit ce matin « Le Togo déclare la guerre à la mendicité dans les rues ». Alors, c'est par rapport à cette opération lancée tout récemment par le gouvernement, cette opération dénommée « Zéro mendicité au Togo ». Alors, Ambroise, finalement, ça veut dire que, tel que je viens de le dire, nos débats trouvent justement des coups favorables par rapport à ces sujets débattus.
Oui, il est remarqué que chaque fois que nous portons un sujet aussi pertinent que d'actualité sur certains faits qui sont réels sur le terrain, on a effectivement un retour que le gouvernement, à travers les autorités, réagissent. l'autorité compétente réagisse. Et moi, je le sais. Et c'est en cela nous insistons d'entrée de jeu à l'attaque de l'émission. Nous envoyons certains pions. Nous ne le faisons pas pour attaquer. Et heureusement que chacun a son ton, a son verbe. Chacun a sa manière de le dire aussi. Les miens me sont propres. Pour Michel, c'est clair. Mais ce qui nous plaît, c'est que quand nous le disons, ils réagissent. Ça, nous l'apprécions à sa juste valeur. Et nous les encourageons à continuer dans ce sens. À certains moments, on comprend que c'est des gens qui veulent travailler. C'est des gens qui sont à l'écoute. C'est vrai qu'à un moment donné aussi, à d'autres moments, on comprend que c'est des gens qui sont souvent indifférents. Mais ce qui est, si la chose est de l'urgence, toute chose au Togo actuellement est urgente. Donc s'il y a quelque chose qui, même le truc du pont qui a sauté,
on va parler là-bas, dans un instant.
La réaction du gouvernement, moi j'ai apprécié. Bon, même si certains peuvent trouver autre chose, moi j'ai apprécié le fait qu'ils ont décidé d'aller directement à l'attaque, c'est-à-dire que à savoir ce qui s'est passé, quels sont les responsables, quels sont ceux qui sont impliqués. C'est de la même manière, nous voulons que ceux qui ont détourné des fonds dans ce pays, que le gouvernement instruise le procureur. Normalement, c'est le procureur lui-même qui doit s'auto-saisir, qui doit s'auto-instruire pour pouvoir diligenter, c'est-à-dire que, comment on dit ça, il y a un terme juridique qu'on emploie, lancer une procédure à l'encontre de ceux-là qui ont été repérés comme étant des détourneurs de fonds. Et donc, moi, j'estime que les enfants qui sont souvent au niveau des feux rouges, moi, je passe souvent au niveau du collège protestant, des fois par Bossimé, des fois même par la libération nationale,
même la voix
surtout au niveau de la sainteté ici. Ils sont pleins en bas. Il y en a le moment qui sont assis souvent sous les arbres ou au mur, au niveau de la poste Habitat, Tokyo Habitat, vous allez les voir aussi sous l'arbre là-bas, contigus au mur de l'hôpital de Tokoin. Ils sont au moins une dizaine qui sont là. Moi, moi j'aime les enfants, sur le principe. Depuis mon naissance, moi j'aime les enfants. Mais je n'aime pas des enfants qui viennent taper coucou, ta vitre et tout ça là, moi je n'aime pas. Et j'ai comme l'impression que c'est les gens qui sont plus riches que nous.
Comment
quand
ça?
Quand vous fouillez, oui, c'est les. J'ai lu des trucs. Il y a un Burkinabé qui a une belle maison, c'est un mendiant. J'ai aussi lu quelque chose au Mali, des choses. Ils sont pleins à être plus nantis que nous.
Alors, mais quand on prend la situation, et d'après le ministre Christian Trimois, c'est que quand on prend ses enfants, on fait l'inventaire, même d'ailleurs, et qu'on voit ses enfants ou ces gens-là qui sont dans la mendicité, la plupart n'est pas du Togo, c'est des gens qui viennent d'ailleurs.
Et ils ont dit quelque chose de très intéressant, que moi j'ai suivi. Ils vont répatrier les enfants. Il a dit même que la majorité sont des pays du Sahel, qu'ils vont faire la procédure pour les rapatrier. Ce n'est pas le Togo qui a commencé ça. Ça s'est passé dans plusieurs pays. Hein.
Mais tout récemment au Bénin.
Pas seulement. Même dans les pays dont j'ai visité, il y a plein de cas. Je ne parle pas des pays maghrébins. Eux ne nous aiment pas. D'ailleurs, il faut que les Africains noirs de peau sachent que ces gens-là ne nous aiment pas. C'est même s'il y a une infime partie qui n'ont aucun problème avec nous. Le ministre moi a clairement dit qu'ils seront rapatriés chez eux. C'est clair. C'est-à-dire qu'il ne faut pas revenir sur cette décision-là. Parce qu'ils deviennent de plus en plus nombreux. C'est pourquoi quand là, il a dit que, tu sais, je vais choquer certaines personnes. Ils nous envahissent ici. On nous dit que nous sommes dans une CDAO des peuples. Nous sommes dans une CDAO de libre circulation des biens et des personnes. D'accord. Il y a l'AES qui a choisi son camp, mais en montant rapidement le drapeau blanc, comme quoi, ils vont pas demander le visa au ressortissant de la CDAO, tout en attendant que le retour vienne de la communauté de la CDAO. Ça, c'est une stratégie. Maintenant, moi, je les considère comme des frères. Mais des fois, franchement, vous savez, ce n'est pas la xénophobie. Quand vous êtes éduqué autrement et que d'autres personnes viennent vous envahir avec une autre éducation, ça complique la vie même citoyenne, la vie quotidienne dans le pays. Je n'ai rien contre eux. Mais des fois, leur comportement frise
c'est comme si c'est eux, ils sont plus propriétaires, ils sont plus togolais que nous, quoi. Vous voyez? Et c'est pourquoi les gens accusent le pouvoir, le régime, le gouvernement, que c'est eux qui leur ont dressé ce lieu-là. Il y en a des gens qui sont de ces zones-là, qui ont acheté des terres ici, qui ont construit des grands bâtiments au niveau du grand marché. Comment vous pouvez comprendre ça?
D'accord.
Et donc, aujourd'hui, cette décision-là, c'est à saluer.
D'accord.
Ils n'ont qu'à aller jusqu'au bout pour vider nos... Les Togolais, tu ne verras aucun Togolais faire ça. Hein? Si on dépose 100, peut-être c'est 2. Pour les Togolais, eux, ils sont dans leur quartier. Les enfants, il y a des enfants de rue. Ça, on peut les connaître. Même en minute, tu vas les retrouver dans la rue. Très sale au pied. Mais ici, ceux-là qui envahissent les feux rouges pour demander.
D'accord.
Et beaucoup d'usagers n'aiment pas ça.
D'accord. Alors, Michel, c'est vrai que le ministre a évoqué aussi le fait que la capitale est aujourd'hui salie par rapport même à ce phénomène. C'est-à-dire, le fait que quand ces enfants-là sont là, enfin, il y a des jeunes qui viennent alors vous demander des choses et par après, il y a même des ordures aussi partout qu'on laisse, bien sûr. Finalement, ça ne donne pas une beauté à la capitale. Donc, il est très important quand même que le gouvernement fasse rapidement pour que, qu'on arrive à donner une solution à ce phénomène.
Oui, je pense que on a même traîné un peu. Hein. À mon avis, on aurait dû régler ce problème depuis. Je ne sais pas pourquoi on a dû fermer les yeux et au fur et à mesure, le nombre devenait de plus en plus croissant. Vous allez à Gouaye, à Kakaveli ici, vous allez à Gualepedo au niveau de la gare routière. C'était des enfants qui vous agressent. C'est des enfants qui vous agressent. Et bon, on ne sait pas pourquoi. Et pendant longtemps, nous, toi, tu l'as dit, nous avons débattu de ce sujet. Et bon, aujourd'hui, nous sommes vraiment ravis que le gouvernement a enfin quand même... pris cette bonne décision de faire en sorte que ce phénomène quand même trouve une solution. De toutes les façons, qu'on les rapatrie ou pas, c'est que nous voulons des feux tricolores débarrassés de ces enfants-là qui parfois ils ont leurs parents assis, leur maman assise contre le mur et qu'on les envoie nous, vraiment déranger des gens, pratiquement. Et puis, je ne sais pas, est-ce que, en dehors des mendiants, là, est-ce que ceux qui vendent les petits colas, là, est-ce qu'ils sont concernés ou pas? Parce que vous aussi, c'est des enfants qui agressent les gens. Les enfants des petits colas, là. Vous les voyez dans les carrefours, ils gênent les gens. Pratiquement, ils sont plus dangereux même que les mendiants. Mais c'est comme ils vous menacent. Acheter leur petit colas, c'est quoi ça? Si quelqu'un veut, il va au marché, il achète ou bien il donc avoir des places précises où les gens peuvent aller chercher que des...
Mais est-ce que ce ne sont pas des stratégies pour vous amener à acheter?
Non. Mais alors là, demandez à tous les tenanciers des boutiques et tout de dégager leur étalage pour venir rester au feu tricolore. Non, je ne trouve pas que c'est une stratégie. Mais non, on doit quand même circuler tranquillement. Et puis, moi, au-delà de tout ça, là, vous voyez que nous vivons une situation difficile dans la sous-région par rapport au terrorisme et tout. Ces enfants-là, on dit qu'ils viennent la plupart du Sahel. Et vous savez, vous connaissez le terrorisme, d'où ça vient chez nous ici. Et ces enfants-là, est-ce qu'ils ne sont pas avoir un éclaireur, tout ça, là? Mais on doit aller quand même... Vous savez pourquoi je dis on a traîné un peu, je ne comprends pas. Peut-être l'État a sa manière de fonctionner. Sinon, mais ces enfants-là, depuis des années, on devait quand même décourager les premiers pour éviter que les seconds n'arrivent. Vous avez vu, à un moment donné, le nombre de venait dans les carrefours, mais c'était vraiment... ça infestait quand même pratiquement les rues. Mais... heureusement, je l'ai dit tantôt, heureusement que c'est tombé en tout cas dans de bonnes oreilles et que il y a une réaction des autorités les plus indiquées. Je pense que ça c'est vraiment. Moi, je suis en train de constater que depuis la sortie du ministre, il y a quand même
des mesures qui sont prises.
Oui, il y a des lieux où on ne rencontre pas ces enfants-là comme ça. Hein. Donc, je me dis que bon, si réellement on veut régler le problème, on peut le régler.
D'accord.
Y a pas de souci.
Ambrose, on aborde un autre sujet. Nous étions à la réouverture de l'hôtel école Lébéné hier. Il y a beaucoup de journaux qui sont revenus sur ce sujet, bien sûr, puisque déjà après les 2 ans de travaux et de rénovation de l'hôtel, aujourd'hui l'hôtel rouvre ses portes. Il y a le journal Le Changement qui écrit aujourd'hui hôtel école Lébéné a ouvert ses portes hier. Et également le journal Flambeau des démocrates écrit Lébéné de retour fort l'artisan. Et encore un autre journal, c'est Ouara les vainqueurs qui écrit bien sûr sur le sujet hôtellerie, tourisme et formation professionnelle. L'hôtel école Lébéné ouvre ses portes. Alors Ambrose, finalement c'est aussi à saluer parce que on a vu quand même l'état de délabrement dans lequel se trouvait cet hôtel, et pratiquement après 2 ans l'hôtel renaît de ses cendres, comme on le dira l'autre.
Oui, le journal de Guadiane a été invité à couvrir, à participer d'abord la semaine dernière
à la conférence de presse.
À la conférence de presse à l'hôtel, à l'ex-hôtel Ibis, devenu hôtel Lébéné. J'appelle bien Lébéné, c'est un évé.
C'est un évé, voilà.
Et les gens peuvent dire Lébéné, il n'y a pas de souci. Et j'ai vu un certain modernisme par rapport à cet hôtel qu'on connaissait au temps de groupe Accor Ibis, quand on participait aux manifestations là-bas. C'est vrai que c'est bizarre, hein. Il y a des choses qui se passent, tu oublies, même que, surtout que quand tu n'as pas le temps, tu n'as plus la chance de passer par la zone, tu ne sauras ce qui se passe. Moi, j'ai oublié carrément, parce que personne n'invite plus à venir à l'hôtel Ibis, au point que, on ignore même que, qu'un hôtel existe encore là-bas. Et comme ils ne sont pas dans le quartier, ça fait pratiquement des années, 2-3 ans que je n'ai aucune nouvelle de cet hôtel. Et quand on a été invité, c'est là que je découvre qu'il y a du nouveau. J'ai apprécié la rénovation de l'hôtel, la piscine, une belle piscine qui est là, pour les enfants et pour les adultes. Hein. Bon, c'est vrai que ce n'est pas à la même dimension que l'hôtel Sarakawa. La paillote, et vous allez voir la façade même extérieure depuis la plage, depuis la mer de l'hôtel, la baie vitrée, quand on monte à l'étage, on va dans les chambres, on constate que c'est un joyau qu'on a réhabilité. Peut-être pour ceux-là qui ne le savent pas, quand la dame, Madame Bito, éclairait l'opinion à la conférence, l'hôtel Lébéné d'abord, c'est un nom qui est propre à tous les pays de la zone,
oui,
de la côte ouest africaine. Quand vous allez au Nigeria, il y a Benin City, il y a le delta du Niger, dans la zone là, c'est toujours le Bénin.
Lébéné, à ne pas confondre à Lébéné.
Oui, Lébéné, le pays Bénin a pris ce nom-là, c'est parce que justement, la côte, c'est la côte du Bénin. Et le Togo aussi a pris ce nom-là à travers son université. L'université à laquelle nous on a été,
à l'université
avant 2002, où on a été, qui s'appelait l'université du Bénin. Le village du Bénin aussi. Donc les gens doivent comprendre, pour ceux-là qui ne le savent pas, que c'est le nom de la côte de la zone qu'on a attribué. Chacun a attribué dans son pays quelque chose d'appartenance à la zone ouest africaine. Donc le Nigeria, surtout le Bénin, le Togo, je ne sais pas si le Ghana aussi en a pris la Côte d'Ivoire. Maintenant, le Togo devait avoir son indépendance en 58, quand le CUT avait gagné les élections. Le CUT dirigé par Padre Souza et Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio, devenu Premier ministre, prend la tête du gouvernement et donc obtient l'indépendance. Et cette indépendance-là, on devait la célébrer. Sauf qu'on n'a pas de lieu pour accueillir les étrangers.
Les infrastructures
nécessaires. Selon, voilà, les infrastructures hôtelières. Selon les dires des historiens, de certains historiens. Et donc, on a dû attendre 2 ans pour finir, construire cet hôtel-là, qui non seulement n'est pas seulement un hôtel, mais le premier hôtel-école.
Et c'est un patrimoine national.
historique. Le premier hôtel-école de l'Afrique de l'Ouest. Et la dame a bien dit, Bito a bien dit, quand vous quittez le Togo, vous allez directement en Tunisie. Qui forme les hôteliers. À part la Tunisie, c'est en France. Donc ça veut dire que le Togo était un pionnier dans l'hôtellerie en ces temps-là. Et ça, moi, ça m'a touché. Et donc, cette infrastructure-là, on ne doit pas la négliger. Et donc, si un hommage à rendre à quelqu'un, peut-être c'est à la dame, sur qui on avait tiré entre-temps, et pour, dans des histoires de CCIT, tout ça là, moi, je faut être franc, mais j'ai compris que, c'est, même s'il y a des intérêts que certains peuvent imaginer qu'elle gagne ou quelqu'un d'autre gagne, j'ai apprécié le fait qu'on a réhabilité cet hôtel-là. Je suis allé même loin en disant, pourquoi pas l'hôtel de la paix.
Oui.
Puis c'est la même personne qui administre l'hôtel Sarakawa.
Sarakawa.
Même si demain, on nomme les directeurs pour ces hôtels-là, son nom restera comme quoi c'est Madame Bito qui a bien fait de réhabiliter ces hôtels-là. Donc, moi, je leur ai dit qu'il faut de la finesse au niveau de la peinture, parce que l'hôtel est proche de la mer, il faut des matériaux spéciaux pour contrer la salinité du vent qui peut abîmer rapidement, comment vous l'appelez, les peintures. Et donc, quand vous rentrez, vous comprenez que ce n'est pas loin d'être un hôtel 3 étoiles. C'est vrai que les travaux continuent, mais j'ai apprécié le fait qu'on ait réhabilité cet hôtel. Et le prix même, quand on a entendu le prix par rapport aux hôtels, Handing Hotel à Accra, quand vous allez là-bas, vous allez à Abidjan, Hôtel Ivoire, les chambres, la nuitée à 200 000, 250 000, 190 000, ici c'est 65 000 francs. Je ne fais pas, ce n'est pas ma manière de faire la publicité à cet hôtel, mais c'est un patrimoine qui nous appartient à tous.
Tout à fait,
puisque... Et donc tout ce que nous pouvons dire pour rehausser l'image du Togo à travers ces infrastructures, je crois qu'il faut qu'on le dise.
D'accord, il faut qu'on le dise. Merci d'avoir rappelé surtout l'histoire, et parce que au-delà de tout, il faut comprendre quand même que l'accord, même pour l'indépendance, a été signé dans cet hôtel.
Dans cet hôtel.
Justement.
Donc, et le Bénin dont on parle,
oui.
La dame dit qu'on parle de le Bénin, qui appartient à toute une région, devenu accord Ibis. Maintenant, le Togo reprend son patrimoine avec le Bénin, c'est-à-dire qu'il faut en prendre soin.
Justement, pour prendre soin.
Il faut en prendre soin. Ça veut dire qu'il doit y avoir... une bonne gestion. Et ce qui m'a touché en plus, c'est qu'on n'a pas licencié tous ceux qui travaillent dans cet hôtel là pendant 3 ans. Ça, je n'ai jamais appris ça quelque part au Togo.
L'information vous a été donnée. Alors, Michel, c'est vrai que quand vous voyez la rénovation de tout l'hôtel, vous comprendrez quand même qu'il y a un travail de fond qui a été fait. Et avec ce travail de fond, Madame Nathalie Bito le disait hier, que pratiquement les travaux ont nécessité alors pratiquement 3,5 milliards de francs CFA. Alors, d'aucuns diront que, mais est-ce que aujourd'hui, par rapport aussi à l'hôtel de la paix, est-ce qu'il ne faut pas vraiment faire quelque chose pour que l'hôtel de la paix aussi renaît de ses cendres comme l'hôtel Ibis, enfin l'hôtel des Bénins, j'allais dire.
Oh bon, tout dépend de ce que...
Parce que c'est l'État togolais qui a repris les choses.
Ce que l'État veut, oui. Tout dépend de ce que l'État veut. Parce que au départ, si tu parles de l'hôtel la paix, on nous avait dit que cet hôtel-là devait être... refait. Il y a je ne sais pas combien d'années maintenant, bon, silence radio. Et actuellement, c'est les rats, les cafards qui se côtoient là-bas. Moi, je pense que c'est Madame Bito, elle a quand même c'est sa griffe personnelle. Hein, et c'est vrai que si vous vous rappelez avec l'hôtel Sarakawa, elle a fait un travail et elle continue de faire toujours un travail là-bas. Et moi, je ne suis pas surpris par ce qu'elle a fait avec cette rénovation. C'est vrai que derrière tout ça, c'est le chef de l'État qui s'est investi personnellement, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, avec une somme de 3,5 milliards. Et ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui, avec cette rénovation, l'hôtel-là s'inscrit dans les hôtels de dernière génération. avec des matériaux de dernière génération, haut de gamme, avec des chambres, Amran le disait, des chambres bien faites.
108 chambres.
Wow. 108 chambres ouais, au total, avec des restaurants, une piscine, et vraiment des vues, hein, des vues tellement intéressantes. Tout ça là, je pense que elle a encore prouvé que ce qu'elle a fait avec l'hôtel Sarakawa, elle pouvait le faire ailleurs. Et Dieu seul sait si demain son aventure ne va pas continuer avec l'hôtel de la paix.
D'accord.
Parce que elle s'y connaît dans ce domaine-là. Elle s'y connaît. Elle a montré que on pouvait compter sur elle. Et aujourd'hui, avec cette réouverture, c'est de faire en sorte que des emplois soient préservés. Que la clientèle, parce que cet hôtel, vous savez, c'est un hôtel historique, et donc ça va peut-être réveiller certains, peut-être de l'autre côté de l'Atlantique, pour envahir une fois encore le Togo, parce que quand nous on était encore tout petit dans les années 80-85, et quand on voyait les touristes, mais ça nous faisait vraiment... C'était très intéressant. Les blancs qui revenaient, qui allaient revenir, tout ça là. Depuis un certain temps, c'est vrai, il y a ça, mais ce n'est pas, on ne peut pas dire ça, la même importance que ce que nous, quand on était enfants, on regardait. Et donc, tout ça là, avec l'hôtel Saraka, avec l'hôtel Le Bénin, que le tourisme, à partir de tout ça là, c'est le tourisme qui est en train de prendre de l'envol, et la formation qui est annexée, hein, puisque à l'ouverture de ce hôtel un peu avant les indépendances, il y avait la formation, et si aujourd'hui on insiste, c'est que ce hôtel va continuer à former une nouvelle génération d'hôteliers pour rehausser l'image du tourisme togolais. Je pense que c'est fondamental.
C'est fondamental pour ce qui concerne surtout la rénovation de l'hôtel de la paix. Hier, j'ai posé la question à Madame Nathalie Bito. Elle me disait qu'elle n'est qu'un soldat et qu'on lui dit alors de le faire.
Il nous dit que demain,
en fait,
vous ne pouvez pas continuer.
Il n'y a rien que vous fassiez en termes de dépenses d'argent sur des infrastructures publiques sans l'accord de Fong Yassimbé. Donc, elle a dit que c'est
l'engagement, alors
c'est l'engagement de la
Fong Yassimbé. Oui, mais Abras, hier, il y a un constat que j'ai fait à la cérémonie alors d'inauguration, c'est que au cours de cette cérémonie, il n'y a même pas un seul ministre qui a, on parle même d'ailleurs de patrimoine national, mais aucun ministre quand même n'était présent pour témoigner quand même du fait que c'est un patrimoine national.
Oui, ce que moi-même, je n'ai pas compris. Vous allez voir dans mon journal, j'ai pris une photo de...
De la table, hein.
Pas de la table. La table, il n'y avait pas de ministre.
Mais l'assistance.
Au moins l'assistance.
L'assistance, oui.
Ceux qui sont en première loge.
Le public, quoi.
Oui, mais en première loge.
Oui.
J'ai vu le préfet, le secrétaire général de la préfecture du Golfe.
Oui.
J'ai vu, je crois, quelques maires. Et c'est tout. C'est-à-dire que... Ce que tu sais, le journaliste, lui, voit tous les angles. Hein.
Tout à fait.
Ah. Nous, on a déjà parlé de ce qui est bien dans cet hôtel, mais les à côté aussi, on en parle. Tu as bien fait, en tant que journaliste, de soulever cet aspect-là. Vous savez, j'ai l'impression que on parle bien du Togolais des fois, mais il y a le côté mauvais aussi du Togolais. La jalousie, l'envie, tout ça là, je ne sais pas. Bon, je ne voudrais pas m'aventurer sur des pistes où je n'ai pas compris qu'un seul ministre.
Mais non, le ministre de la Culture.
Oui, ne serait-ce que qu'il soit ami avec Madame Bito, quoi. C'est-à-dire que, surtout que, même si on ne voit pas Madame Bito derrière cette histoire-là, qu'on voit au moins le caractère national, le caractère authentique, historique, et de l'ouvrage, de l'infrastructure de cet hôtel, c'est un peu faire le déplacement. Même Madame la Première ministre, comme le terre retombe dans la main du Togo, peut faire. Moi, je dis que c'est les gens qui ne pensent à eux. Ils vont encore m'insulter, je m'en fous. Parce que j'ai trouvé ça. J'ai oublié l'aspect là. Hier, je l'ai remarqué. Putain, je suis allé même moi. C'est rare que moi j'aille devant.
Non, c'est le contraire, justement.
Je suis allé à la une de mon journal, je l'ai montré. Et j'ai été épaté, j'ai été sincèrement sidéré de ne voir aucun. Si c'était Faure Gnassingbé qui devait aller là-bas, ah, tous, même pas hypocrisie, seront là-bas. Mais là, ils n'ont pas bien fait de ne pas se présenter. Même si on reproche quelque chose, peut-être à la rénovation ou à la dame qui est devant. Vous savez, l'histoire nous a appris que quand tu fais quelque chose, souvent qui est bien, les envieux ne vont pas te regarder. Ils peuvent avoir des greffes contre toi. Mais le minimum, c'est qu'on puisse tirer ce qui est de la qualité, ce qui est du bien de la personne et ignorer ce qui est mauvais de lui. Quand tu as un ami, tu sais que cet ami-là, il est devenu cynique, il est devenu une poisse pour toi. Un vieux m'a dit, on ne le lague pas. Tu peux faut pas le laguer. Faut pas le faire croire qu'il est comme ça. Il faut le ménager, prendre ce qui est bon de chez lui, mais continuer pas à collaborer, travailler avec lui. C'est ce que j'ai appris. Mais c'est difficile à faire chez Togo. Donc moi, j'ai pas du tout aimé cette absence-là, notoirement remarquable, de 26 ministres, je crois, au gouvernement, ou des 30 ministres, d'aucun parmi eux, même pas solidarité, il y a des dames parmi eux, aucun ne soit allé là-bas.
D'accord.
Ce n'est pas bien. Mais il suffit qu'il y ait une petite inauguration de feu rouge, quelque part à des Ticopés. Ils vont se retrouver là-bas.
D'accord. Alors, on va quitter le sujet. On s'intéresse maintenant
à mieux cet incident. Le sujet là.
Oui, on va s'intéresser à ce drame alors d'Agwe Zongo.
Non,
ça fait toujours le débat. Il y a le temps qui nous est déjà qui est avancé. On va aborder ce sujet puisque c'est également le sujet central. Et quand on prend ce sujet aujourd'hui, les derniers développements, on évoquait cela même d'ailleurs dans nos mots introductifs. On comprend tout simplement que pour ce qui concerne cet accident où il y a 8 morts et 3 blessés graves, aujourd'hui il y a les enquêtes qui sont ouvertes et on veut situer les responsabilités. Alors Michel Ouara, les vainqueurs, vous écrivez sur le sujet ce matin, effondrement de la passerelle à Agwe Zongo, le chef de l'État demande une transparence totale sur cette affaire.
Ah oui, en mal du conseil des ministres, le chef de l'État instruit le gouvernement pour que toute la vérité soit faite sur cette affaire-là, situer les responsabilités sur toute la ligne. Et nous pensons que c'est une bonne chose. Avec des pertes de vie, avec des pertes en vie, la vie humaine et tout ça là, et des dégâts matériels et tout, il faut quand même essayer de voir clair pour punir s'il y a des gens à punir. Parce que vous voyez, quand vous descendez dans l'hôpital, ce que vous remarquez, c'est que les gens se disent que à chaque fois il y a des situations comme ça qui se passent, mais on ouvre les enquêtes et puis après il n'y a plus rien. Mais cette fois-ci, nous allons croiser les doigts, voir si réellement quelque chose sera fait dans ce sens-là. Parce que, si vous vous rappelez, après l'incendie du marché d'Agwe Jive, je ne veux pas parler des marchés de Kara et de Lomé. Le dernier incendie, je ne vais pas parler du marché de Kégué, mais je vais parler du marché d'Agwe Acier, où le procureur de la République avait, en tout cas, publié quelque temps après les résultats de l'enquête préliminaire. Mais je ne sais pas quoi faire, comme de temps, on n'a pas encore les résultats définitifs de cette enquête pour voir qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Est-ce que, avec ce qui s'est passé la dernière fois, est-ce que nous allons vivre la même situation ou bien les gens vont creuser? C'est vrai que le procureur a pris en compte ce dossier, mais avec, en tout cas, les mots du chef de l'État, est-ce que les choses vont aller beaucoup plus vite pour voir qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Sinon, L'enquête est ouverte, c'est une bonne chose, mais si on ne la referme pas pour que les gens découvrent la réalité, ça ne va pas vraiment faire du bien aux gens.
D'accord, ok. Ambrose, est-ce que vous comprenez la diligence par laquelle déjà cette enquête est faite, puisque on connaît déjà des enquêtes qui sont ouvertes alors dans au pays, mais finalement les résultats tardent toujours à venir. Mais cette fois-ci, on voit rapidement quand même que il y a le propriétaire, même d'ailleurs de, enfin au niveau de l'entreprise, il y a des gens qui sont, enfin il y a le propriétaire qui a été mis en garde à vue et aussi des gens qui sont auditionnés. Finalement, ça veut dire que ça va vite là.
Oui, ça doit aller vite parce que il y a trop de lapsisme dans le pays en matière de gestion des risques, en matière de gestion des cas d'accident, en matière de contrôle des gros porteurs dans le pays. Et ça, c'est pas la première fois on le dit, qu'on a comme l'impression qu'il n'y a rien qui soit fait à l'endroit des gros porteurs qui passent tout le temps sur la voie publique. Même à des heures de pointe. Ça, on le crie tous les jours, mais j'ai l'impression qu'au niveau du ministère, c'est pas ça qui préoccupe. C'est cet accident-là qui m'a renvoyé encore dans ce dossier-là. Et je crois que le passeur de dossier
effectivement.
Est revenu là-dessus,
le MMLK.
Dans un communiqué, de programmer la circulation des gros porteurs. Je parle bien des camions de transport de sable, des camions titans. Et tout ce qui est camion de 10 roues et à partir de 6 roues jusqu'à 10, 12 roues, tout ça là, je sais pas s'il y a 12 roues, je suis pas spécialiste, de les caser quelque part de 6h à 7h30, même 6h à 8h, de 11h30 à 14h ou à 13h30, là on est sûr que les enfants, les travailleurs sont déjà partis ou sont déjà de retour. De 16h à 18h, non, 17h au moins, à 18h30, on est sûr. Vous allez voir des cas d'accident dans des agglomérations bondées de monde. La dernière fois, ce qui s'est passé là, je crois que les responsabilités doivent être partagées. Et je le dis, que la responsabilité va d'abord à l'autorité contractante, celle qui est derrière la construction de ces passerelles. Moi, je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose, les passerelles. Coco, on a fait à l'université. On envoie j'envoie tous les samedis pratiquement à l'Ebacito. Mais moi, je n'ai pas eu le temps de vérifier les ouvrages dont on construit. La LMBTP, l'autorité qui doit contrôler la fiabilité, la qualité des ouvrages, on doit les interpeller aussi. Ça fait 2, 3. Le premier même, c'est l'auteur du véhicule. Celui qui a commis la bourde, qui est décédé, on dirait. L'auteur,
c'est le chauffeur,
le propriétaire de ce véhicule. Même le propriétaire n'en a forcément pas tort dans cette histoire. Moi, j'ai acheté un véhicule, j'ai cherché un chauffeur, j'ai trouvé qui conduit bien. Et c'est des chauffeurs, des fois même, qui font des SPA, qui passent le véhicule à quelqu'un d'autre, sans même la connaissance du chauffeur, du vrai propriétaire. Tu vois bien les taximens, les taxis au niveau de leur avant, sont souvent cassés. Tu sais pourquoi, non? Et donc, la quatrième personne, c'est le ministère de la Sécurité, qui aussi doit être impliqué. Je viens de soulever leur cas. Qui ne sont pas trop surveillants, qui ne sont pas trop regardants sur la voie. La DSR est là. On sait qu'il fait ça, fait un travail contre les permis, les taxes de DVM, tout ça là. Mais ça là aussi, il faut quitter ça un peu aussi. Ce qui est important, c'est que c'est la vie des gens, quoi. Donc, si la vie des gens, on pense au permis de conduire, on doit penser aux gros porteurs qui font sur des gens en tricycle. Je répète ce matin. Je demande au gouvernement d'interdire les tricycles dans les milieux périurbains.
D'accord.
Je reviens sur ça. Interdire les tricycles sur les voies, d'ailleurs les périurbains de Baguida jusqu'à Zangira, il faut les circonscrire. Comment, Djamina?
D'accord.
Parce que il cause trop de dégâts.
D'accord. Ok, merci, cher confrère. Nous allons en arrêter là pour ce qui concerne le débat, puisqu'il est déjà midi. On va donner la parole à nos auditeurs qui s'impatientent aussi à rentrer en ligne pour participer à ce débat avec nous. Et c'est sur le 90 86 35 35 91 36 63 115. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
13.5. Canal FM.
FM. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Oui, ça va bien. C'est Canal FM.
Pardon, c'est?
C'est Canal FM?
Oui, c'est Canal FM. Votre nom, c'est?
C'est David.
David, vous nous appelez de quel quartier?
D'Agoué.
D'Agoué, allez-y, David.
Bonjour, je veux seulement intervenir sur le fondement de la parcelle.
Oui.
Pourquoi on accuse le gouvernement pour le mettre de tout ça là? Est-ce que c'est une erreur du chauffeur? Un chauffeur qui conduit ce gros camion là doit savoir que, en mode, doit savoir la hauteur de son camion pour ne pas passer au-dessus de cette parcelle. Et je crois même que la passerelle est en construction. Le chantier n'est même pas encore livré. Puisque souvent, quand on finit, on met des barres. Vous allez voir pour les autres, par exemple, pour la Grèce-Bosito, là. On a mis une hauteur, on a mis une barre à 5 mètres de la parcelle, du passerelle. Mais, de l'autre côté, ce n'est pas encore mis. Je crois que le truc nous met en chantier. Donc, le chauffeur est venu rentrer dedans. Et la responsabilité incombe seule à ce chauffeur. Je ne vois pas pourquoi il faut accuser quelqu'un par rapport à l'erreur commise par un chauffeur. Donc, c'est tout ce que je pense.
D'accord.
Sur ce sujet. Mmh. Merci.
Merci beaucoup, David, pour votre intervention. Salut, Canal FM. J'aimerais dire merci à notre ministre pour le rapatriement des talibés enfants de rue, car ce fléau, si on n'arrive pas à éradiquer cela dès maintenant, ça serait comme ici au Sénégal, car même les vieilles et les vieux bien portants le font, et c'est pas du tout bien, et ça crée beaucoup d'accidents de circulation. Merci, c'est André depuis Dakar. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Niamavo.
Oui, c'est Monsieur Niamavo.
Allez-y.
Je partage ce que Monsieur Ambrosio a partagé très tôt au début de l'émission. Nous sommes du cœur avec eux. Sinon, les journalistes de pouvoir en gagnent beaucoup. Depuis qu'on leur varie dans 80%, c'est pour le peuple qui travaille. Et concernant le cas de Bénin, c'est bon. J'ai entendu 5 milliards. C'est une bonne chose. Et si on peut aussi nous trouver un tel montant pour le faire de la paix aussi, on va servir ça. Quelqu'un, bon, souvent les radios trottoirs, ça devient réalité. Je peux dire que, il semble que Passerelle d'Assoy qui est tombé là, c'est 4 milliards.
4 milliards, vous dites?
Quelqu'un disait, je ne sais pas si vous avez vérifié avec moi, bien, à l'issue de l'enquête, on va voir si à fond on a construit ça. Bon, pourquoi on donne le tort aux chauffeurs? Moi, je jure le truc, hein. Ça, c'est une montagne. Comment tu veux poser ça sur un système forte charge? On peut avoir la chance de passer. Et de ces gens de trucs, ça ne comprend pas. La police, ça dit que ben oui, moi, hein, pour sécuriser et pour dégager le passage, c'est Dieu qui nous a sauvés, hein, c'est un peu que ça regarde qu'il y a des gens. Et une voiture prenait sur la table, et puis ça, c'est toujours. Imaginez, c'est l'entourage qui a protégé les Togolais, encore une fois. Prions pour le repos de l'âme de ceux qui ont subi ce sort-là, des travaux mal faits. Hein? Prions que les autres travaux à venir nous donnent des leçons pour qu'on les écoute en bien. Bonne émission.
D'accord, merci beaucoup, M. Niamavo, pour...
Allô, Canal FM.
Allô, bonjour.
Allô.
Oui, comment vous allez? Allô, bonjour. Allô. Décidément, il est parti. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse.
Allô?
Allô, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Mm-hmm.
Décidément, il n'est pas avec nous. Allô, bonjour.
Mm-hmm. Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Oui, allez-y.
Allô, bonjour. Allô, bonjour.
Allez, allez-y.
Oui, allô?
Décidement, Michel, je ne sais pas trop ce qui se passe. 90, 86, 35, 35, 91, 36,
315.
Allô?
Bonjour, Canal FM.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va bien. Je salue mon ami Ambrose Kondjo.
D'accord. Votre nom, c'est...
C'est Karim, le taxman.
Ah, Karim, allez-y.
Vous voyez, dans le pays qu'on est, non? Avec tout ce passe qu'on fait. Péage à 500. Carburant. TVM. Trimestre. Assurance. Et malgré tout ça, on fait une pomme qui tue la population. Et vous n'avez pas le droit de parler. Quand tu parles, c'est la prison. Prenez la route de l'ONU jusqu'à Tapané. À un moment donné, je dis que même ils ont arrangé un peu. Actuellement, allez-y. Des trous, des gros trous, surtout quand vous dépassez à Bati. Avant d'aller à Wahala, il y avait certains trous qui sont là-bas. Si un camion tombe dans ça, c'est un accident. Et les gens sont sous le chef de l'État. Ils ne veulent rien faire. Quand vous voulez dénoncer quelque chose, allez-y, cherchez-le, envoyez-le quelque part. C'est tout. On est fait quoi dans ce petit pays, ce petit pays? On ne peut pas nous donner des choses qu'on mérite au moins, avec tous les taxes qu'on paye. Personne n'a besoin de faire, cette pointe n'a pas mis la barre jusqu'à ce que ça va tuer la population. Est-ce qu'on mérite ça dans ce pays? Moi, je suis taximan. Ce qui se passe sur la route de jour en jour, surtout de l'eau, les trous qui sont là-bas, comment les camions font des accidents là? Quand vous prenez la route, toi-même, quand tu prends la route, il faut toujours prier à Dieu que tu vas aller revenir. Sinon, je ne suis pas sûr que tu peux aller revenir. Un petit trou comme ça, c'est l'accident. Parce qu'il y a le trou, le titan, lui aussi ne veut pas tomber dans le trou. Il est obligé de venir vers, suite à droite, et c'est fini. Et quand tu rentres dans une brousse, c'est fini. Mais pourquoi? On ne peut pas arranger cette route pour nous. Et chaque temps, c'est les accidents. Donc, ministre, ministre de Piste du Réal, on souffre tout.
D'accord.
Le péage, c'est cher. 500 le retour, 500 le retour, 500 le retour.
Merci beaucoup, Karim. Karim, merci beaucoup. On va donner la parole à d'autres personnes aussi, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont en ligne. Allô, bonjour.
Bonjour, Pascal.
Oui, Basile, comment vous allez?
Ah, tout bien.
D'accord, allez-y.
Je vais emboîter le pas aux gens qui m'ont précédé. À vrai dire, moi, je n'ai pas bien écouté le débat. Mais c'est notre souffrance. Je sais qu'on en a parlé, les gens qui se sont succédés les uns et les autres. Bon. Pourquoi est-ce que le chef de l'État veut que ça soit comme ça? Soutenez-nous. Qu'est-ce que les Togolais lui ont fait? Et qu'il ne peut pas, à l'instar des autres pays, pour que nous aussi on respire un peu dans le pays. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Hein? C'est de ça où on donne les travaux aux gens, ils ne vont pas effectuer les travaux dans les normes. Et ça a causé les morts. On va encore compter les morts. Les routes, on dit que ceci, les gens vont faire les résidents. Mais on va rien, nous on ne fait que compter les morts. Sauf que comme ce n'est pas eux qui meurent dans ces conditions, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que nous, on est ses enfants? Pourquoi ils ne veulent rien faire dans ce domaine-là? La vie chère, les gens ne mangent pas. Ce n'est pas ton problème. Il est tiré à quatre épingles à chaque conférence, il est là-bas. Partout, il est là-bas. C'est lui qui règle tous les problèmes. Et quand les terroristes font quelque part, ils s'en vont, ils le libèrent. Mais nous, on est toujours là.
D'accord. Basile, merci. Merci beaucoup. On va recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, Papa Sibiti.
Bon directeur, bonjour.
Oui, Papa Sibiti, bonjour.
Bonjour, mon directeur.
Oui, allez-y.
Salut à mon fils directeur, Isidore et les autres. Vous savez, au Togo, ce qui se passe. Pour l'accident, est-ce que je voudrais vous poser la question, c'est vous qui êtes nos enfants. Est-ce que l'assistance, en passant, quel que soit ce qui se passe, la dalle là, est-ce qu'elle est obligée de tomber? Pourquoi ne pas la faire pour que, quelles que soient les choses de collision, elle reste? Deuxièmement, voyez-vous parler des mendiants. Ces mendiants, vous savez pourquoi on les a fait partir. Mais moi, je peux dire que il y a certains parmi eux, tels qu'on le pense, ils ne sont pas des terroristes. C'est, vous voyez, le mandat au Sénégal, il faut y laisser pour que les gens aillent faire des sacrifices, hein, des aumônes. Troisièmement, pour l'hôtel, les Togolais sont comme ça. Si M. Pascal, mon fils, ou bien Edidor, veut exceller, on ne va pas le supporter. Alors que c'est ça, il faut qu'on supporte, qu'on ne soit pas jaloux des gens, parce que c'est Dieu qui les a placés là-bas. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Sibiti. Nous lisons cette réaction rapidement de M. Kossig Bonnet. Et pour clôturer l'émission, bien sûr, clôturer la réaction des auditeurs. Bonjour à tous. D'après mes observations, je constate le fait de confier les travaux de construction des ponts et chaussées des IGH aux entrepreneurs disqualifiés occasionne la perte des vies humaines dans ce pays, le Togo. Tout cela provient du gouvernement togolais. Il faut que l'État prenne sa responsabilité. C'est une réaction alors de l'auditeur Kossi Egbonet. Nous revenons en plateau. Chers confrères, vous avez écouté les uns les autres se prononcer sur l'actualité telle que débattue ici au Club de la Presse. Michel, votre réaction?
Oh, par rapport à quoi? Par rapport à la réaction de nos amis auditeurs?
Justement par rapport aux auditeurs ou, si possible, si vous avez un autre sujet à évoquer, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous prononcer.
Non, ils ont donné leur point de vue, c'est ce qui est intéressant. Et ils le font d'habitude, et cela permet quand même de voir comment, au-delà de ce que nous disons ici, ce que les autres pensent, là où ils sont, dans leur bureau ou dans leur atelier. C'est très intéressant. Moi, je vais juste profiter, donc, comme j'ai le micro, pour profiter pour dire joyeux Noël. Et à tous mes lecteurs, que ce soit par rapport au journal ou sur le site, que Dieu nous fasse miséricorde pour que nous puissions quand même rentrer dans la nouvelle année, dans la paix et dans la sécurité. C'est tout ce que j'ai à dire.
Merci, Michel. Voilà, Ambrose.
Oui, moi, je voudrais rapidement partager la une de quelques les titres de mon journal. Éviter de dégrader la route. Ça a un sens pour tout le monde. C'est-à-dire, les usagers dégradent la route. Les personnes ordinaires aussi dégradent la route. Les gens sont même prêts à prendre des comment on appelle? Giga là en français, c'est comme ça, c'est comment on appelle
pioche, oui.
Pour creuser sur la chaussée. Donc éviter de dégrader la route. Ça, c'est un de deux. L'opposition ne veut pas aller au sénatorial. C'est à raison, au vu de ce qui s'est passé et au vu du contexte dans lequel on se trouve dans la 5e République. 4. Le patronat de la presse togolaise a organisé une assemblée générale hier ordinaire, suivie de formation. Nous sommes toujours aguets et nous prions Dieu de nous accompagner l'année qui va suivre. Et enfin, le Front Touche pas à ma Constitution, qui voulait organiser une conférence débat qui a été interdite par des contorsions entre du ping-pong entre le ministère de l'administration territoriale et les responsables de gestion de Brother Romain. Ce que d'aucuns n'ont pas compris, le communiqué est clair.
L'Église catholique.
Le communiqué du Front interpelle l'Église catholique de faire le jeu du pouvoir. Donc, aux responsables de l'Église catholique de savoir comment manager pour être en phase avec les aspirations du peuple.
D'accord. Merci beaucoup, Ambroise. Je rappelle tout simplement que dans les kiosques, ce matin, il y a des Guadians, il y a le journal Flambeau des démocrates, il y a Ouara les vainqueurs, dont le directeur de publication est avec nous ici. Il y a aussi le journal le changement que vous pouvez retrouver aussi dans les kiosques. Ce matin, il y a la Nouvelle Tribune, dont le directeur est l'homme, Tissot B. Il y a Canal D aussi, dans les kiosques ce matin. Il y a le journal du Togo aussi que vous pouvez retrouver bien sûr dans les kiosques. L'autre journal que vous pouvez retrouver, c'est le journal La Libération, le journal Libération, et qui est aussi dans les kiosques, et également le journal Le Dialogue aussi est dans les kiosques ce matin. Merci à vous tous. Michel, merci à toi d'être passé dans cette émission.
Avec plaisir.
Ambroise Kondo, merci d'être passé aussi dans cette émission.
Merci Pascal, on se retrouve la semaine prochaine.
Justement, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, merci à vous tous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Vous qui nous avez appelés aussi, merci pour votre contribution à ce débat citoyen que nous menons chaque jour, de lundi à vendredi, et c'est sur l'actualité, vous le savez très bien, et vous faites bien quand même de participer à ce débat avec nous. Nous aimerons même d'ailleurs que, à la fin de cette année, surtout la semaine prochaine, on aimerait animer une émission spéciale, bien sûr, avec les auditeurs. Vous pouvez nous contacter si vous souhaiterez alors participer à cette émission. Contactez-nous sur le 90 45 78 57, c'est notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous écrire là-dessus pour qu'on programme bien sûr cette émission. Merci à Michel Touriga qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dacoute a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Loussou. Je vous retrouve demain vendredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.